Salut, c'est Laurent Marchand, bienvenue dans le troisième chapitre du programme « Comment se détacher du résultat ». J'espère que tu vas bien. On est parti avec un troisième chapitre qui va rentrer dans le dur du sujet. Comment on fait pour se détacher du résultat et comment on fait naître à l'intérieur l'attitude qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller chercher le résultat, mais simplement être qui on est suffit à obtenir ce que l'on veut. C'est un chapitre qui va te demander peut-être un peu de concentration, probablement de le réécouter une deuxième fois, probablement de prendre des notes. Bref, ton cerveau va se battre contre moi parce que je vais t'annoncer des choses qui sont totalement à l'inverse de tout ce que tu as appris, de tout ce qu'on t'a appris. Les paradigmes de l'éducation ne considèrent pas ce que je vais te dire comme une vérité et au contraire, nous installent dans quelque chose qui nous lie à l'extérieur de nous, c'est-à-dire quelque chose qui deviendrait l'objet qui va créer ton bonheur. Sauf que si on considère ça, évidemment, eh bien, on se sépare des choses et on croit que nous ne sommes jamais assez, jamais suffisamment, jamais vraiment ou jamais tout court. Okay ? Donc, on va voir ça dans quelques petites minutes. Avant cela, on va revenir sur les deux chapitres précédents. Donc, le premier chapitre, en fait, il disait essentiellement que le développement personnel, qui a été vraiment extrêmement riche hein, par tous les coachs en motivation, par tous les coachs qui nous ont fait travailler sur la réussite, etc. En fait, tout a été extrêmement généreux dans le sens de la persévérance vers l'objectif et vers le résultat. Cette persévérance vers l'objectif et vers le résultat n'est absolument pas stupide, c'est quelque chose qui était extrêmement utile à un moment donné, mais qui ne l'est plus aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, notamment, c'est que le monde change et les individus qui peuplent le monde changent aussi. Ils changent parce qu'ils sont au milieu d'un environnement, notamment un environnement technologique qui déploie des capacités du cerveau qui n'étaient pas prévues à l'origine, c'est des capacités qui ne sont pas naturelles, c'est-à-dire toutes les technologies apportent au cerveau des transformations, des modifications qui le rendent plus performant. Donc plus ça avance, plus le cerveau est intelligent. Les gens qui disent que la technologie abrutit les enfants ou abrutit les gens, sont des gens qui n'utilisent pas les technologies, parce que dès lors qu'en fait on utilise les technologies, bien sûr, évidemment, avec on va dire, modération, hein. L'idée c'est pas d'être 10 heures par jour ou 15 heures par jour sur des ordinateurs et sur des tablettes ou sur des téléphones portables, mais l'idée c'est de comprendre qu'en fait, ces technologies sollicitent une intelligence qui n'a jamais été sollicitée jusque-là. C'est une intelligence particulière et cette intelligence qui est une intelligence logique, qui est une intelligence stratégique, qui est une intelligence vraiment liée à l'outil, eh bien cette intelligence qui n'existait pas chez nous fait de nous quelqu'un qui est pourvu de plus. C'est-à-dire que ça nous apporte quelque chose. Alors, on peut trouver que ça nous apporte que des conneries. Ça, c'est autre chose, c'est un jugement. Mais il y a des gens qui diront, oui, évidemment, mais pour que ça apporte, oui, peut-être, mais effectivement, ça apporte quand même. Et les outils, ce que les outils développent dans notre cerveau, eh bien, les fonctions de notre cerveau qui sont développées par l'outil, eh bien, sont des fonctions dont on va se servir après dans la vie. C'est-à-dire, l'outil crée la fonction. Okay ? La fonction étant, on s'en sert lorsqu'on n'est plus avec l'outil. Et donc, du coup, on devient plus intelligent. Les enfants, les adolescents qui utilisent les technologies d'aujourd'hui sont des enfants qui vont devenir bien plus intelligents que leurs parents. Et la preuve de la stupidité des parents, c'est d'imaginer qu'en fait, les enfants ne grandissent pas avec ça et deviennent de plus en plus stupides. En fait, quand on s'intéresse vraiment à ces enfants, on se rend compte qu'en réalité, ces fonctions développent des choses extrêmement... développent des choses extrêmement fonctionnelles dont les enfants se servent. Et les outils stratégiques qui naissent après des multiples heures à passer sur des jeux, les outils stratégiques, l'intelligence logique, ça c'est quelque chose d'incroyable. Il y a des enfants très jeunes, c'est le cas de mon fils par exemple, très jeunes qui apprennent à parler des langues étrangères simplement parce que la nécessité d'un jeu en ligne fait que parfois ils sont en ligne avec des étrangers, donc ils sont obligés d'avoir des rudiments de certaines langues, et je le vois aujourd'hui avoir des rudiments de plus en plus faciles de l'anglais, par exemple, parce que c'est une langue que les autres enfants peuvent parler, mais il est parfois en train de parler en anglais avec des petits enfants allemands de son âge. Ils ont 9 ans à l'heure où je vous parle. Donc vraiment, Tout ça crée en fait des nécessités et les enfants s'adaptent à ces nécessités parce que ils y tiennent. C'est ludique, c'est intéressant, etc. Et donc du coup, bah, ça propose des choses. Et ces choses, une fois qu'elles sont proposées, bah, ils y répondent avec plaisir. Et en y répondant avec plaisir, eh bien forcément, on ne le sait pas parce qu'on ne le croit pas, mais parce qu'on est des vieux d'anciennes générations qui ont décidé de dire que la jeunesse était moins bien que la leur, eh bien ces nouvelles choses eh bien, améliorent la qualité de l'être humain en règle générale. La deuxième chose qui fait que l'être humain évolue, c'est la fréquence différente de vibration de la Terre, c'est-à-dire l'endroit sur lequel on est tous posés. Cette vibration est différente, elle est différente depuis quelques années, depuis 4 ans exactement, mais ça avait déjà commencé les transformations avant. Et en fait, parce que la fréquence vibratoire de la Terre est différente, eh bien, la fréquence vibratoire des êtres humains qui la peuplent a changé aussi, comme celle des animaux, comme celle de la nature, comme celle de tout ce qui est sur la planète. La fréquence vibratoire s'est transformée. Et comme cette fréquence vibratoire s'est transformée, qu'elle est beaucoup moins axée sur l'intériorité de la Terre, c'est-à-dire, en gros, il y a moins de gravité, c'est comme ça que ça se démontre dans la vérité physique, il y a moins de gravité, et bien du coup, notre conscience s'ouvre et se connecte beaucoup plus facilement aux choses de la spiritualité, de l'intangible, des grandes vérités, des grandes philosophies, etc. Et donc, cette nouvelle approche qu'on a ouvre la conscience des êtres humains. Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité à parler de ces sujets de la spiritualité avec des gens qui n'étaient pas du tout concernés. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont voir des chamans ou qui vont voir des gens qui font de la médecine holistique. En fait, tout le monde commence à s'ouvrir à tous les sujets. Donc ça, c'est effectivement une des conséquences. Mais la conséquence principale et qui concerne notre sujet, c'est que aujourd'hui, on n'est plus du tout les mêmes. Et comme on n'est plus du tout les mêmes, on ne peut plus fonctionner de la même manière. Et le fonctionnement qui était celui de l'objectif, de la persévérance et du résultat, eh bien, ce fonctionnement disparaît. En tout cas, il a besoin de disparaître. On ne peut plus l'utiliser parce qu'en l'utilisant, on utilise un paradigme qui correspond à un schéma psychologique qu'on n'est plus. On n'est plus ce schéma psychologique. On est un autre schéma, beaucoup plus ouvert, et c'est avec ce schéma beaucoup plus ouvert qu'on va pouvoir faire les choses, passer à l'action et obtenir des résultats. Donc l'ouverture de conscience qui se développe aujourd'hui nous invite à reprendre contact avec nous-mêmes plutôt que de se fixer un point extérieur qui va capter toute notre intention et qui va nous faire croire dans une espèce de leurre, de pseudo-lien de dépendance, et ben qu'en fait c'est utile ou capital pour notre développement, notre intelligence, notre bonheur ou quoi que ce soit. Hier, dans le deuxième chapitre, on a travaillé sur comment définir un projet sans définir de résultat. C'est-à-dire comment je peux avoir un projet, imaginer un résultat, mais ne pas me fier à ce résultat pour le garder en focus et tout faire pour y arriver. En fait, on a vu, en gros, que si je me fixe un résultat, en fait, je me condamne à l'énergie du contrôle pour y arriver. Or, aujourd'hui, je ne suis plus prêt, moi, en tant que nouvel être humain, je ne suis plus prêt à utiliser l'énergie du contrôle pour obtenir un résultat. Je ne suis plus prêt. Ça veut dire que si j'utilise l'énergie du contrôle parce que je pense que c'est l'énergie du contrôle qui va être utile pour aller au bout de mon projet, eh bien, je vais me brûler intérieurement, je vais me consumer parce que je vais avoir besoin de dépenser 1 milliard de fois plus d'énergie que si j'utilise d'autres voies qui sont celles que je propose dans ce programme. Donc l'énergie du contrôle aujourd'hui est beaucoup plus dévastatrice que toutes les autres façons de faire les choses. Et cette énergie du contrôle qui était peut-être utile il y a quelques années, aujourd'hui ne l'est plus du tout. Aujourd'hui, l'ouverture de conscience nous permet de considérer deux choses. La première, c'est que si je veux quelque chose, ça veut dire que je crois que je manque de quelque chose. Okay. Si je veux quelque chose, ça veut dire que je crois que je manque de quelque chose. Donc si je veux utiliser l'énergie du contrôle pour obtenir ce que je veux, ça veut dire que cette énergie-là à l'intérieur de moi, elle se bat contre une autre énergie qui dit « la vérité, c'est que tu ne l'as pas ». La vérité, c'est que tu ne l'as pas. Et donc ce combat, c'est pour ça qu'il est énergivore, ce combat, il est encore plus difficile parce qu'à la fois, on se persuade qu'on va obtenir ou qu'on peut obtenir quelque chose qu'on n'a pas, et en même temps on est persuadé que cette chose qu'on cherche à obtenir, on ne l'a pas. C'est comme si on faisait un vœu et on l'annulait, et on le refaisait et on annulait. Parce qu'il était annulé, on le refaisait et on l'annulait, et évidemment on perd une énergie considérable et on n'obtient jamais véritablement ce qu'on veut. Donc comment faire? Eh bien, il suffit de se poser la question autrement. C'est-à-dire que je ne veux pas quelque chose en particulier, je veux ce que cette chose va me permettre de vivre. Par exemple, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de ce que l'argent va m'apporter. Par exemple, je parle pour moi, il y a quelques années, je courais après l'argent. J'en gagnais beaucoup, mais j'en avais jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers cet argent, je cherchais quelque chose de moi. Je cherchais ma puissance, je cherchais ma force, je cherchais mon pouvoir. Et je me disais, plus j'aurai de l'argent, et plus je serai fort, plus j'aurai du pouvoir. Le problème, c'est que cette énergie dépensée à obtenir le résultat ne m'apportait pas la force dont j'avais besoin. Ça veut dire que je pouvais avoir de l'argent, mais je n'étais pas plus fort pour autant. Donc en fait, je voulais de l'argent, mais ce qui me manquait à l'intérieur, c'était de la puissance, ou en tout cas, une sorte de sentiment intérieur de pleine puissance. Donc, lorsque j'obtenais du résultat, c'est-à-dire j'obtenais de l'argent, je me rendais bien compte, même si c'était inconscient, je me rendais bien compte que ça ne m'apportait pas la confiance, la force ou le pouvoir qui me manquait. Donc, je perdais cet argent pour pouvoir aller le rechercher, parce que je ne me rendais pas bien compte que ce n'était pas le résultat qui m'apportait la force. C'était le fait, par exemple, de travailler dans l'urgence. C'était le fait de me dépasser, de me challenger. Parce que là, j'avais le sentiment qu'en fait, j'étais fort. J'avais le sentiment que j'étais puissant. Donc, en gros, je croyais que j'avais besoin d'argent, alors qu'en fait, j'avais besoin d'une situation d'urgence. L'argent est une situation d'urgence qui marche à tous les coups. J'avais besoin d'une situation d'urgence pour me démontrer à moi-même que j'avais des capacités, que je n'étais pas un bon à rien. Alors ça correspond typiquement à mon enfance, c'est-à-dire à ce qu'on a dit de moi, que j'étais gauche, que j'étais maladroit, ou que j'étais un bon à rien, que je ne travaillais pas à l'école, qu'on ne pouvait pas compter sur moi, etc., etc. Toutes ces choses qui ont été dites peut-être sans arrière-pensée et qui ont été retenues par mon petit cerveau malin, qui avait besoin de me martyriser, de me flageller avec des mauvaises appréciations. Et donc mon mental a gardé ça de moi. Je suis ça, je suis quelqu'un de maladroit, de bon à rien, qui ne travaille pas à l'école. Enfin, je veux dire, tout le monde se gargarise avec ça, mes profs à l'école, mes parents ou ma famille, enfin tout le monde y allait de son laïus sur le fait que je ne bossais pas, que j'étais un feignant, et que voilà. Après, on disait, oui, mais en même temps, il a des facilités, mais il ne faut rien. Donc évidemment, moi, je ne retenais pas le fait que j'avais des facilités, je retenais le fait que les gens ne m'aimaient pas parce que je foutais rien. Donc à force de ne pas être aimé et de croire que c'était parce que j'étais un branleur, et ben du coup, je me suis mis à travailler, et à travailler durement, ardemment, avec beaucoup de labeur, parce que le labeur, pour moi, c'était un signe de courage. Le labeur, les gens qui travaillaient laborieusement, c'était des gens qui avaient du courage, c'était des gens qui avaient de la force, qui avaient de la pugnacité, qui avaient de la persévérance, etc. Alors qu'en réalité, c'était juste des gens qui travaillaient avec force. On peut aussi faire la même chose de manière fluide, mais moi, la fluidité, ça, c'était trop facile pour moi. J'avais besoin de l'urgence et j'avais besoin du labeur. Donc, cette urgence et ce labeur faisaient de moi la personne forte que j'avais envie d'être. Dès que je gagnais 50 000 derrière cette urgence, ce labeur, eh ben, il n'y avait plus d'urgence, il n'y avait plus de labeur. Donc il fallait vite que je dépense ces 50 000, parce que tant que je les avais sur moi ou tant que je les avais sur mon compte, eh ben, je n'avais pas d'urgence. Donc il fallait que je dépense ça très très vite, comme ça, ça me permettait de remettre le couvert et de retravailler dans l'urgence en me plaignant et en disant « Ah là, je suis fatigué, ah là, c'est difficile. » Comme ça, les gens disaient « Oh là là, Laurent, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est puissant, qu'est-ce qu'il est courageux. » Et je l'ai entendu d'ailleurs très très souvent, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui marche très bien. Hein. Quitte à arnaquer tout le monde, eh ben, on s'arnaque soi-même, on s'arnaque les autres aussi, et ça marche très très bien d'arnaquer les gens en leur faisant croire qu'on est fort parce qu'on se crée des urgences pour pouvoir être dans une espèce de panique qui fait que tout le monde trouve qu'on est fort. Et voilà, la boucle est bouclée, on a eu ce qu'on voulait. Mais en réalité, je ne voulais pas d'argent. J'ai jamais voulu d'argent. Moi, ce que je voulais, c'était des situations d'urgence. C'est pas pareil. Enfin, même, je dis ça, j'ai encore mon cerveau qui vient de me leurrer. Non, ce que je voulais, c'était me prouver à l'intérieur de moi que j'étais fort et que j'étais courageux et que j'étais capable de supporter les challenges et le labeur. Donc, en fait, on ne veut jamais ce qu'on veut. On veut toujours quelque chose qui est caché derrière ce qu'on veut. Ce qui était caché derrière l'argent, pour moi, c'était ça. Quand on veut une voiture, on ne veut pas une voiture. On veut la puissance que ça va nous conférer, ou bien la reconnaissance des autres quand ils vont nous voir débarquer avec notre Porsche ou notre Aston Martin. C'est ça qu'on veut. On veut vivre ça. Et si on veut vivre ça, c'est parce qu'on croit qu'on n'est pas ça. Donc du coup, l'idée, c'est de comprendre que plutôt que d'exprimer ce que je veux, j'exprime ce que je suis. Et en fait, je suis ce qui se cache derrière ce que je veux. D'accord ? Je suis ce qui se cache derrière ce que je veux. Donc hier, on a vu, par exemple, si on veut 10 000 euros, on est 10 000 euros. Si on veut l'abondance, on est l'abondance. Mais si je suis 10 000 euros, si je suis 200 000 euros, si je suis 2 millions d'euros, ce n'est pas la même énergie. Si je suis l'homme qui valait 3 milliards. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Je suis l'homme qui valait 3 milliards. C'est super intéressant comme concept parce que ça nous met dans une énergie totalement différente. Juste pose-toi deux secondes en disant je suis une personne qui vaut 2 euros. Ok, vois ce que ça fait à l'intérieur de toi, comment ton corps réagit, quelle énergie se met en place. Et quand tu dis je suis la personne qui vaut 2 millions d'euros, d'un seul coup, ton énergie, elle n'est plus du tout la même. Ton corps se replace d'une autre façon. Ta densité même de ton corps n'est pas la même parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se met à vibrer, qui se met à vivre. Eh bien, plus tu vas te dire « je suis une personne qui vaut 2 millions d'euros, je suis l'homme qui valait 3 milliards, je suis la femme qui valait 2 millions, 2 milliards », peu importe. L'idée, c'est de dire que « je suis ça, je suis ça ». Alors, on n'est pas l'argent. On est une valeur de l'argent, on n'est pas l'argent. Je ne suis pas un lingot d'or. On ne peut pas dire je suis un lingot d'or. C'est comme si je suis l'argent. Je ne suis pas l'argent. Je ne suis pas des pièces de monnaie, des billets imprimés. Je suis la valeur. Je suis 3 milliards. Je suis 10 milliards. Je suis toute l'abondance du monde. Je suis la richesse. Je suis le succès. Je suis tout ce qu'on veut. Mais on n'est pas l'argent. Je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Lorsqu'ils font ces affirmations « je suis », ils font des affirmations « je suis » avec l'objet du désir, alors qu'en fait, il faut être avec ce que l'objet du désir va nous apporter. Par exemple, si je veux être libre avec tout cet argent, eh bien, je ne suis pas l'argent, je suis la liberté. Je suis la liberté, je suis profondément libre. Je suis profondément libre. Et en fait, si cette liberté, finalement, je sais au fond de moi-même que je l'acquiers avec de l'argent, plus je vais me sentir libre à l'intérieur, plus je vais gagner de l'argent pour vivre cette liberté. OK ? Parce qu'en fait, le final, c'est quoi ? C'est que justement, on obtient ce qui va nous permettre de vivre ce qu'on sait qu'on est. OK ? Je le répète, on obtient ce qui va nous permettre de vivre ce qu'on sait qu'on est. En fait, on crée toujours les choses qu'on sait, jamais les choses qu'on croit. On donne jamais de réalité matérielle aux choses qu'on croit. Choses qu'on croit, il demeure toujours un doute, donc on ne les crée pas. Mais quand on est sûr des choses, c'est ça qui se crée. Parfois, il se passe des choses merveilleuses dans notre vie, on dit « Ah, j'en étais sûr !» Et parfois, il se passe des choses pourries dans notre vie, on dit « Ah, j'en étais sûr !» Mais c'est parce qu'on en était sûr que ça s'est créé. Donc maintenant, est-ce que tu es sûr de quoi ? Tu es sûr de quoi quand tu reviens à l'intérieur de tout de toi? Tu es sûr que tu es quoi? Est-ce que tu es sûr que tu es la liberté? Est-ce que tu es sûr que tu es l'abondance? Est-ce que tu es sûr que tu es la réussite ou le succès? Pour obtenir la réussite et le succès, il ne faut pas poser des actions de réussite et de succès. Il faut incarner la réussite et le succès. Et c'est ça qui fera qu'on posera les actions de réussite et de succès. On ne sait pas inventer des actions de réussite et de succès quand on est dans la lose. C'est pas possible. On va inventer des actions de la lose. Parce que c'est comme ça qu'on est. Parce qu'on réfléchit à l'envers, parce qu'on sait pas, parce qu'on n'a aucune stratégie. Mais si on sait qu'il y a une part de nous qui est stratégique, il y a une part de nous qui est intelligente, il y a une part de nous qui nous porte vers quelque chose de brillant, vers un avenir magnifique, et bien cette part de nous, elle va imprégner toute l'énergie de ce que nous sommes. Je suis. Aujourd'hui, ça va être l'objet de l'audio du jour, c'est de comprendre que ce qui naît dans l'intention, elle naît déjà dans la réalité. C'est ce que je suis qui prime sur ce que je fais. Ce qui naît dans l'intention naît dans la réalité, ça signifie que dès lors que j'imagine que je vais conduire une voiture de sport, eh bien ça existe déjà. Alors, ça n'existe pas dans la matérialité, parce qu'on n'est pas encore au volant de cette voiture de sport. Mais si je sais que je vais conduire une voiture de sport, eh bien, je vais conduire une voiture de sport. Parce que la formation réticulée, toujours celle-là, va considérer ça comme important. La formation réticulée, je te le rappelle, c'est un groupe de neurones qui est à l'arrière de la tête et qui filtre la quantité hallucinante d'informations qui nous arrivent. Les contrastes, les couleurs, la température, la lumière, voilà, toutes ces... Puis après, il y a les sons, il y a les mots, etc. Il y a les pensées, etc. Toutes les informations qui nous arrivent de l'extérieur sont des informations qui vont être filtrées par la formation réticulée. Et la formation réticulée ne laisse passer que deux choses. Les informations qui sont urgentes et les informations qui sont importantes. Si tu es en train de lire un bouquin passionnant et que tu entends un signal d'alarme qui t'indique qu'il y a le feu ou bien une odeur de feu, ça va tout de suite te réveiller et ça va tout de suite te mettre debout et tu vas dire « Merde, il se passe quelque chose. » Ok ? Donc ça, c'est la formation réticulée qui fait passer l'urgence. Et ensuite, la formation réticulée fait aussi passer ce qui est important. Et plus tu sais que quelque chose est important dans ta vie parce que tu l'as imprimé dans tes cellules en étant ça, je suis celui qui conduit des voitures de sport, je suis celui qui conduit des voitures de sport, je suis celui qui conduit des voitures de sport. C'est tout, et je ne remets pas ça en question. Je suis celui qui gagne des fortunes, je suis celui qui vaut 10 milliards, je suis celui qui réussit tout, je suis celui qui voyage dans le monde, je suis celui qui... Eh bien, si on se répète ça constamment, sans remettre en question, mais nullement, l'énergie de ce qui est de ce qui s'imprègne dans notre corps, eh bien, à un moment donné, l'opportunité va passer par la formation réticulée qui va trouver que c'est important et qui va le remonter au cerveau en disant « Tiens, il y a ça ». Et j'ai comme ça des exemples très précis. J'ai un ami qui disait « Je veux... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre le moment où je vais ouvrir des garages et je vais avoir plusieurs voitures de sport dans mon garage, de ma grande maison, de ma grande villa luxueuse dans le sud de la France. » Voilà, donc lui, c'était ça. Je vais vivre ça. Je vis ça. C'est déjà créé dans mon esprit. Ça existera. Alors, il se trouve que ce jeune homme est cascadeur. Au moment où je l'ai rencontré, il était cascadeur et donc il y avait peu de chances qu'à moins de tomber sur un très gros contrat, il y avait peu de chances de... Il faisait des arts martiaux, donc il était cascadeur dans les arts martiaux. Donc il y avait peu de chances qu'à moins de trouver un très très gros contrat, de pouvoir se payer une villa immense avec plein de garages que quand il les ouvre tous les matins au petit déjeuner, eh bien, en buvant son café, eh bien, il note qu'il y a des Porsche, qu'il y a des Ferrari, etc. Et donc, mais il était absolument sûr de ça. Et donc là, ça va dans le sens de ce que tout le monde croit, c'est-à-dire, bah oui, mais... Ça suffit pas d'être sûr, parce qu'à un moment donné, où il faut qu'il pose des actions qui vont faire qu'il va gagner les 50 millions d'euros qui sont nécessaires à ça. Oui et non. C'est-à-dire que parce qu'il incarne ça profondément, et parce qu'il sait que ça, c'est sa vie, il ne se pose pas la question de savoir pourquoi il veut ça, il ne se pose pas la question de savoir, il ne remet pas ça en question, il ne dit pas « je ne l'ai pas », il ne dit pas « c'est nul », il ne dit pas « c'est un projet de blaireau », il s'en fout. Il ne remet pas ça en question. Il sait que c'est ça sa vie, point final. Et il me l'a répété 1 milliard de fois, je sais que c'est sa main. Je le perds de vue, je le vois quelques années plus tard, et il me dit, je lui dis, comment ça se passe pour toi ? Il me dit, je m'éclate, je le conduis des voitures de luxe toute la journée. Je lui dis, mais en fait, t'as réussi ton truc, quoi. Il me dit, ah mais oui ! Il me dit, exact, il me dit, bah, je vais te raconter comment ça s'est passé. Il me dit qu'en fait, il a continué son job de cascadeur, mais en même temps, il travaillait dans une autre société qui fabriquait des moteurs de batterie pour des petits véhicules pour les gens qui manquent d'autonomie physique. Et donc, voilà, il travaillait sur des petits véhicules comme ça. Et un jour, un copain l'appelle, enfin quelqu'un l'appelle et lui dit « Écoute, on m'a donné tes coordonnées parce que je cherche quelqu'un pour gérer mon agence de location de véhicules de luxe. » Et comme apparemment, toi, t'es assez, t'as déjà conduit des voitures de luxe, donc il en avait conduit, mais il en avait conduit genre 2-3, hein, c'est tout. Et il dit apparemment, comme t'as déjà conduit des voitures de luxe, voilà, moi j'aimerais bien déléguer cette tâche à quelqu'un qui va s'occuper de la concession. Il dit, bah ouais, moi ça m'intéresse vachement, mais elle est où cette concession ? Eh ben elle est dans le sud de la France, donc il était déjà dans le sud de la France, mais pas le mec. Elle est dans le sud de la France. Et à tel endroit, et donc voilà, il faudrait qu'on se retrouve à la concession et que tu vois. Et donc, il lui file l'adresse, lui, il était comme un fou, il dit, mais en fait, c'est fou, je vais... Mais bon, c'est sûr que une concession, c'est comme un garage qu'on ouvre tous les matins. Donc c'est vrai, ah ouais, c'est vrai, c'est quand même, ça se rapproche quand même pas mal de mon truc qui disait que j'allais faire ça. Mais il se pose pas plus de questions. Il dit de toute façon, je sais que c'est ma vie, donc je vais vivre ce truc. Et en fait, il arrive à l'adresse que lui a filé ce type au téléphone, et c'est une grande villa. Et le type lui dit non, mais moi j'ai pas besoin de concession, j'ai pas besoin d'un garage. En fait, c'est chez moi ici. Et il dit d'ailleurs, si tu gardes la concession, ce serait peut-être cool que tu t'installes ici. Parce qu'en fait, moi, je vais partir à l'étranger, et donc ce serait pas mal qu'en même temps, tu fasses le gardiennage de la maison. Si, évidemment, ça ne te dérange pas. Et donc, mon pote, il s'est vu dans une grande baraque, avec sa femme et sa petite fille, qui était toute bébé à l'époque. Il s'est vu dans cette grande baraque, à ouvrir chaque matin tous les box de la villa, et à voir que des voitures de luxe. Ça, finalement, ça s'est proposé exactement comme il savait qu'il le vivrait. Et donc, il vivait dans une villa, bon, c'était pas la sienne, mais il vivait dans une villa, pour laquelle il payait pas de loyer, d'ailleurs. Il vivait dans une villa, avec piscine, c'était un truc immense, magnifique. Il y avait du personnel, parce que le type avait déjà ses femmes de ménage, etc. Donc il y avait du personnel et tout. Et lui, il faisait tourner la baraque, c'est-à-dire qu'il louait des voitures de luxe à des mecs qui avaient beaucoup d'argent et qui avaient envie de se faire plaisir au volant d'une Porsche, d'une Ferrari, d'une Lamborghini, etc. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais parce qu'il savait. Donc forcément, le moment où l'information est arrivée à lui, il était prêt. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que ce qui naît dans l'intention naît dans la réalité. Ensuite, il y a juste une matérialisation à faire, et cette matérialisation, elle consiste à signaler à la formation réticulée, ça, c'est important pour moi. Et comment on fait pour signaler ça à la formation réticulée? On affirme, je suis ça, je suis celui qui, je suis ça. Je suis ça, je suis ça, et c'est tout. Je suis l'énergie de ça, je suis l'énergie de la réussite, je suis l'énergie de l'abondance, je suis l'énergie de l'amour, je suis l'amour, je suis tout l'amour du monde. Je suis, et si on manque d'une personne dans sa vie, je suis l'amour, c'est quelque chose qui est très très fort. Parce que dès lors qu'on rencontre quelqu'un, eh bien, on commence à être une personne différente puisqu'on est l'amour. Si je répète sans cesse, je suis l'amour, je suis l'amour. Dès que je vais rencontrer une personne qui me plaît, eh bien, je vais être l'amour. Si, à l'intérieur de nous, on n'a pas suffisamment réglé les choses et qu'on dit « j'aimerais être l'amour », quand on va se retrouver devant une personne qui nous plaît, on ne va pas réussir à être l'amour. Et croyez-moi, l'énergie de se dire « je suis l'amour », ça change totalement les rendez-vous galants. Hein, totalement. Donc, l'idée, c'est d'installer à l'intérieur de soi ce qui est. Ok ? Pour que l'intention crée la réalité. Et donc, du coup, c'est ce que je suis qui va primer sur ce que je fais. Je peux tout à fait utiliser ce que je vais faire pour obtenir quelque chose, mais si je suis, je ferai plus facilement parce que mes gestes vont découler naturellement de ce que je suis, et forcément, j'obtiendrai ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'être attaché au résultat, j'ai plus besoin d'être attaché à qui je suis. Parce que qui je suis va générer l'énergie, les gestes, les mots, les paroles, tout, le discours, qui va faire que je vais poser des actions qui vont faire que je vais obtenir le résultat. Si je me fixe sur le résultat, je vais poser des actions dans l'énergie du contrôle, sans être encore déjà cette personne qui est ce que je cherche à être. Et donc forcément, ça va être laborieux, ça va être difficile. Mais si je suis déjà, je n'ai plus besoin. Parce que je suis, j'imprègne chacun de mes mots, chacun de mes gestes, chacune de mes actions, et c'est parce que c'est imprégné de ce que je suis que mes actions vont porter leurs fruits vers ce que je veux. Ok ? On se retrouve demain pour travailler dans la réalité, c'est-à-dire utiliser vraiment ça au sens premier du terme, c'est-à-dire comment ça se passe dans la réalité. Dans la réalité, comment on fait ? Comment on fait dans la réalité ? Ok, on va vraiment passer un chapitre entier là-dessus. Donc, voilà, bon, je t'invite à revenir demain parce que ça va être un sujet très, 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 comment dire, exercice pratique. Hein, okay. Donc voilà, pour résumer, concentre-toi sur qui tu es. Ne te concentre pas sur ce que tu veux ou sur ce que tu fais. Si tu sais que tu es la personne que tu souhaites devenir, tu l'es déjà, eh bien tu vas le devenir. Si tu crois qu'il faut que tu cours après des chimères pour l'obtenir, tu ne l'obtiendras jamais. Parce que tu vas conditionner le fait d'être à quelque chose qui sera à l'extérieur de toi. Et donc, tu vas passer ta vie à courir après, forcément. Ok ? On se retrouve demain. Je te souhaite une excellente, excellente journée et je t'invite à réécouter cet audio ou à méditer dessus autant de fois que tu peux. C'était Laurent Marchand, ciao.